Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'écouter Meet the Dev. Je suis Franck, level designer dans l'industrie du jeu vidéo, et j'ai décidé pour vous, et avec vous, de discuter avec d'autres développeurs de jeux de tous les horizons. Dans Meet the Dev, la parole est donnée aux indépendants, comme aux salariés de grosses entreprises, aux juniors, comme aux vétérans. Tout le monde a sa propre histoire, et nous allons donc discuter avec nos invités de leur carrière, de leurs avis sur l'état de l'industrie, de leurs réussites, mais aussi de leurs échecs, ainsi que de ce qui leur tient à cœur dans leur travail. Bienvenue dans Meet the Dev. Il est vrai que quelques mois se sont passés depuis la dernière diffusion d'un épisode de Meet the Dev. Néanmoins, aujourd'hui pour l'épisode 5, je reviens avec un invité de marque, ou plutôt une invitée, puisque c'est Audrey Le Prince qui m'a fait le grand honneur de bien vouloir participer à ce podcast. Audrey Le Prince est aujourd'hui, pour la présenter très rapidement, mais on passe plus d'une heure à en discuter, la cofondatrice du studio français The Game Bakers, mais elle est aussi la présidente de l'association Women in Games. Et vous allez voir, la discussion a été riche et extrêmement intéressante pour moi. On va parler avec elle de sa riche carrière, de l'entertainment, mais aussi évidemment de The Game Bakers, de Women in Game. Sans plus attendre, Meet the Dev épisode 5, c'est parti. Audrey Le Prince, bonjour, merci de participer à ce cinquième épisode de Meet the Dev.
Oui, bonjour.
On voudrait revenir avec toi sur ta carrière, ce que tu fais à Game Bakers et aussi sur l'association Women in Games. Mais avant tout, Audrey, j'ai trois questions, les trois premières questions que je pose à tous mes invités. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu?
Ah ouais, j'apprécie que tu demandes pas où vas-tu, parce que c'est la question difficile à laquelle on essaie tous de répondre dans nos vies. Donc, qui suis-je? Moi, je suis Audrey Le Prince. J'ai fait du jeu vidéo depuis 20 ans maintenant. Et je continue à en faire aujourd'hui. Et je pense qu'on va en parler dans le détail, donc je vais pas m'approfondir là-dessus. Mais moi, je viens, et c'est assez marrant d'ailleurs, que ça a été possible, je viens d'une famille où on n'avait pas d'ordinateur et où on n'avait pas de console de jeu, et jusqu'à mes 18 ans, j'ai pas eu d'ordinateur ni de console de jeu, et j'ai habité une grande partie de ma vie à la campagne, en périphérie de grandes villes en France, et pourtant j'ai fait du jeu vidéo.
Alors, comment t'as réussi à rebondir sur les ordinateurs?
j'ai rebondi parce que ma passion, c'était à l'époque, hein, quand j'étais une jeune fille, c'était la littérature et l'écriture, ouais, et les jeux de rôle. Et donc, d'accord, avec mes amis rôlistes, on écrivait des scénarios de jeux de rôle et on les jouait, et puis même des scénarios de jeux de rôle grandeur nature, qui font que j'ai développé une expérience en fait qui me permettait d'écrire des scénarios de jeux de rôle, enfin des scénarios interactifs avec des choix multiples, avec des si se passe ça, il se passera ça, etc. Ce qui était un petit peu l'ancêtre de ce qu'on fait dans le jeu vidéo aujourd'hui. Et c'est sur ça, entre autres, que je suis rentrée à Quantic Dream. Ce qui m'a permis de rebondir aussi, c'est que j'arrivais pas avec mon école de business à rentrer dans le jeu vidéo. Mais j'ai trouvé des boulots dans d'autres univers de l'entertainment, à savoir je suis allée dans la littérature, hein, chez Gallimard et chez Flammarion.
Donc c'est par là que t'as commencé du coup?
Ouais, c'est ça, j'ai bossé sur Le Petit Prince, le CD-ROM, le premier d'accord CD-ROM du Petit Prince, où il y avait un jeu pour apprivoiser le renard, et du coup, pif, j'ai rencontré des développeurs, et pif, l'un dans l'autre, je suis arrivée chez Quantic Dream.
Alors moi j'ai lu aussi que t'avais travaillé chez Warner, ou sur la Metro Gold, je ne sais plus.
La MGM, la Metro Goldwyn Mayer.
La Metro Gold, d'accord.
Le Lion, wow.
Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Est-ce qu'il y avait un pont vraiment entre ce travail-là, la littérature, puis le GD?
Le pont, c'est que moi je m'intéressais à toutes les industries culturelles, hein, la littérature, le cinéma, la vidéo, en l'occurrence à la MGM, moi j'ai... je faisais du marketing et du coup j'ai travaillé sur le lancement en vidéo de GoldenEye, Clockwork Orange, donc j'ai eu Kubrick au téléphone par erreur, hein, c'était pas moi qui voulais appeler, hein, mais bon quand même, Et du coup, j'étais à Londres, c'était vachement sympa, en partie de travailler. Enfin, c'était ma première vraie expérience à l'international et j'en ai eu beaucoup derrière, donc ça, on en reparlera aussi.
Et du coup, tu es passé donc de tout ce qui est marketing à gestion à ce poste de GD chez Quantique grâce à ton travail sur tes activités annexes en fait, vraiment sur grâce à tes hobbies.
Ouais, c'est ça, grâce à mes hobbies. Et puis, faut savoir que si je faisais du marketing et de la gestion, c'était parce que j'étais pas assez bonne pour être écrivain, hein, je pense. Ça,
Oh.
non, je peux le dire parce que j'ai essayé. Hein. J'ai pris un an de césure et j'ai écrit plusieurs livres, dont un que j'ai
D'accord.
envoyé à plein d'éditeurs qui m'ont tous répondu non. Donc, je peux dire maintenant,
J'étais peut-être trop en avance sur son temps.
c'est ce qu'on peut se dire. Hein. Je suis peut-être voilà, je sais peut-être un talent qui aurait été découvert différemment aujourd'hui, je ne sais pas. Mais bon, maintenant c'est trop tard vu que j'arrive plus même à parler français correctement à force d'avoir vécu à l'étranger depuis 15 ans. Donc là, je pense que c'est un petit peu mort pour ma carrière d'écrivain.
Le premier jeu sur lequel tu travailles à Quantic Dream, c'est Nomad Souls, c'est ça?
Ouais, c'est le Omicron Nomad Soul avec David Bowie.
D'accord.
Aussi, j'ai serré la main de David Bowie. On va, je pense, pouvoir en parler beaucoup de mes anecdotes croustillantes à qui j'ai serré la main.
Et alors, comme premier job en GD, là-dessus, sur ce jeu-là, typiquement, tu fais quoi?
Alors, Quantic Dream, c'était une petite équipe hein, à l'époque, donc on faisait un peu de tout. Donc moi, ce que j'ai fait je suis arrivée en plus pas tout au début, c'était déjà à la prod. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait tous les réglages des combats, tout ce que tu trouvais dans les loots après t'être battu contre les monstres. J'ai fait la localisation. Après, j'ai fait même le site web de
Ah
la
oui.
boîte. Ouais, non, on faisait un peu de tout à l'époque. C'était très sympa.
Ah oui, donc c'est vraiment une bien plus petite équipe que ce que c'est devenu.
Ouais, je pense qu'on était une trentaine quand je suis rentrée chez
D'accord.
Quantique. Peut-être moins, ouais, à peu près. Ouais. C'est loin déjà.
Et donc rencontre avec David Bowie.
Oui, David Bowie donc composait hein, l'album Omicron pour aller avec le jeu.
D'accord.
C'était quand même un truc incroyable que David Cage avait réussi à mettre en place. Et du coup, il y avait aussi son personnage, David Bowie, qui était dans le jeu.
D'accord.
Ainsi que le personnage de sa femme. Il était passé nous saluer tous et nous serrer la main au studio. Et il avait son musicien qui composait l'album en partie dans la petite salle de son du studio.
Ah, stylé.
C'était très sympa.
Effectivement, c'est une belle anecdote.
Ouais, c'était super.
Et donc à partir de là, est-ce que tu vas rester longtemps à Quantique? Donc là, on est à peu près fin des années 90, début 2000, quelque chose comme ça.
Ouais, je vais rouvrir mon LinkedIn pour pas dire de bêtises parce que je me souviens plus déjà.
Mais donc tu fais un jeu à Quantique.
Après, j'ai bossé quand même sur la pré-prod de plusieurs jeux à Quantique. Des jeux qui ont. On ne peut pas dire que j'ai bossé sur leur jeu suivant parce que ça a vraiment beaucoup changé entre-temps. Mais ouais, j'ai fait des pré-productions, des conceptions sur certains projets, voilà, de la recherche, du game design sur les projets d'après.
Et donc ce genre de jeu, par contre, toi, c'est pas du tout. Alors c'est celui qui t'a fait entrer, c'est un peu ce qui t'a fait entrer la narration, mais c'est pas forcément celui que tu vas emmener après. Ou est-ce que tu vas continuer à travailler sur des jeux qui vont être dans ces lignes-là chez d'autres gens?
Moi, j'aime beaucoup hein, ce que fait David Cage et l'équipe de Quantic Dream. Je trouve ça très intéressant. C'est le genre de jeu auquel je prends plaisir à jouer.
À faire.
À faire aussi, hein. C'était super intéressant de le faire. C'était aussi une super expérience de pouvoir faire plein de choses au sein de l'équipe, de faire aussi bien des caméras que du script, de level design, que du balancing de gameplay, que de la lock. Voilà, donc ça, c'était vraiment chouette. Non, moi, ça m'a vraiment permis un petit peu de toucher à plein de choses, donc c'était très intéressant. Donc je trouve que c'était une super bonne expérience. La seule chose, c'est que moi, il faut savoir que j'avais une idée en tête qui était de partir travailler et vivre en Chine. Et j'avais notamment appris le chinois dans ma grande école, là. Et du coup, j'avais rencontré, j'avais un groupe d'amis qui étaient passés chez Maza, le groupe Maza, en fait. Qui
D'accord.
était un groupe qui développait un moteur d'IA à l'époque qui s'appelait DirectAI, plus orienté technologie, et qui devait aussi ouvrir en Chine. Et du coup, ça m'avait paru intéressant d'aller travailler avec eux. Et là-bas, parce que il y avait aussi cette promesse, tu vois, d'ouvrir un studio à Hong Kong dans lequel ils m'enverraient. Et du coup, là-bas, j'ai travaillé sur un projet qui était une création originale, un des seuls projets, je pense, sur lequel j'ai eu un énorme impact de contenu, qui s'appelait Serengeti, qui était vraiment un jeu de simulation de la savane africaine, puisque leur moteur d'IA était vraiment très poussé, donc tu pouvais mettre des motivations et C'était quand même en 2000, hein, c'était il y a 20, enfin,
D'accord.
il y a 20 ans, quoi. Donc tu pouvais mettre des motivations très complexes sur les agents. Et ça nous permettait vraiment de reproduire la savane. On avait un prototype qui marchait très bien. On avait un guépard, des points d'eau, des gazelles, des trucs pour se cacher, etc. Et le guépard, il allait faire toute sa vie tout seul, chasser, se coucher à l'ombre, digérer, rater sa chasse, éventuellement. Et tout ça de façon complètement organisée par l'IA, et ça rendait très bien. Et du coup, on avait pour projet d'en faire un jeu d'aventure, en fait. Mais on a eu beaucoup de mal à le pitcher, parce que c'était trop loin d'être un jeu, en fait. Ça manquait de gameplay. Et tu pouvais, aujourd'hui, je pense que tu t'en sortirais mieux pour vendre un jeu pareil. Mais à l'époque, juste, voilà, interagir avec un écosystème, c'était pas suffisant comme gameplay.
Voilà, c'était encore une fois trop en avance, hein.
C'est ça qu'on
Décidément.
va dire pour se rassurer. Mais c'était une super expérience. Je suis devenue une spécialiste absolue de la trentaine d'animaux du Serengeti sur lesquels je connaissais tout par cœur. Et puis ça a été acheté par Infogrames quand même à l'époque, ce
D'accord.
projet.
Peut-être pour récupérer de la tech, non?
Ouais, non, la tech, ils l'ont gardée. Hein. Ils ont toujours d'ailleurs, je pense, leur tech TI, parce qu'elle était aussi utilisée dans l'armée, dans l'armement, etc.
D'accord.
Et dans les robots. Ils faisaient des robots aussi. Ils en font toujours, je pense. Et j'ai bossé sur Conflict Zone, qui était un jeu PC à RTS. Et puis au final, on m'a appris que j'allais pas aller en Chine, parce qu'on n'allait pas ouvrir de studio là-bas.
Ah, les promesses.
Voilà. Et donc du coup, j'ai pris un an, j'ai écrit mon livre, qui ne s'est pas vendu, hein, enfin qui ne s'est pas. Voilà. Je me souviens les gens répondent pas en général, mais il y a quand même un éditeur qui m'a répondu. Ça m'avait beaucoup touché. Il m'avait dit, c'est dommage que ce soit si mal écrit, parce que vraiment l'histoire est super. Et j'avais trouvé ça.
C'était un roman, c'était
C'était un short, enfin une nouvelle, je crois, on dit. Et
Ouais.
le principe, c'était qu'en fait, c'était un peu comme la disparition, tu vois. La personne perdait petit à petit l'usage de son langage. Mais je m'étais pas aperçue que ça pouvait être compris aussi comme très mal écrit, au final. T'avais un langage qui s'appauvrissait petit à petit, donc c'était peut-être un peu
Ah
audacieux
oui,
aussi comme
d'accord.
type d'écriture. Et bon, du coup, bref, voilà. Et donc j'ai fait ça,
Douloureux feedback quand même.
ouais, douloureux feedback, mais du coup mais au moins feedback, donc c'était pas mal. Et j'ai du coup postulé pendant cette année en Chine, vraiment directement. Et du coup, j'ai postulé chez Ubisoft à Shanghai, qui avait ce studio où ils cherchaient une productrice.
Alors, si je peux t'interrompre 2 secondes, quand même, je me demande depuis tout à l'heure pourquoi ce goût d'aller travailler en Chine?
Ah, tu sais, c'est cette espèce de passion qu'on a souvent quand on est jeune pour des pays qui ont porté des cultures ou des choses incroyables. Alors, tous mes amis étaient passionnés par le Japon, qui est aussi une culture
Ouais.
fascinante. Et je crois que vraiment beaucoup des Français
Très ancré en France, ouais.
très ancrés en France cette passion pour le Japon. Et moi, je suis tombée amoureuse de la Chine, mais je suis tombée amoureuse de la Chine d'avant le 15e siècle, c'est-à-dire la Chine où à l'époque où nous, les rois de France et les rois d'Angleterre, on mangeait dans des écuelles en bois, et encore quand on avait des tables, eux, ils avaient déjà de la porcelaine, des feux d'artifice,
Ouais.
de la poésie qui s'écrivait, qui se lisait dans tous les sens, voilà, bon. Donc, et des bateaux, etc. Bref. Donc je suis tombée amoureuse de cette Chine qui était, à cette époque-là, hein, un ou 2 siècles en avance sur le reste de son monde, et en me disant, ça doit être encore comme ça aujourd'hui, ça va être fascinant. Et le chinois aussi, c'est une très belle langue, de plein de façons, même si je la parlais très mal et je la parle maintenant quasiment plus. Voilà, donc j'étais passionnée par cette culture. Et aussi, je me disais, de toute façon, puisque la Chine va dominer le monde, autant y aller et les comprendre et passer du bon côté. Et comme ça, tu pourras mieux gérer quand la Chine va prendre le contrôle du monde entier.
Encore une fois, tu vois, belle vision d'avenir, hein.
Ouais, on peut dire ça. Et donc voilà. Et donc du coup, je
On
suis.
se retrouve à Ubisoft.
Voilà, je me retrouve à Ubisoft Shanghai en 2003. C'était pas mal. C'était le bon choc. Alors c'était le choc de plein de façons parce que donc évidemment, comme tout le monde, hein, quand on part dans un pays, quand on rêve d'un pays dans lequel on n'est jamais allé, quand on y arrive, on a souvent un choc, hein. Donc moi, le choc était d'autant plus gros que je rêvais de la Chine d'avant le 15e siècle. Donc quand je suis arrivée dans la Chine du 20e siècle, enfin, ça fait mal aux dents.
La vision de la ville contre la vision de la Chine, peut-être peut-être plus traditionnel.
Ouais. Donc Shanghai, 20 millions d'habitants. À l'époque, quand je marchais dans la rue en 2003, les gens s'arrêtaient pour se prendre en photo avec moi parce qu'ils n'avaient pas vu d'étrangers.
C'est vrai?
Ah ouais, donc c'était vraiment avant l'ouverture massive de la Chine et de Shanghai. Donc c'est toutes ces anecdotes-là qui sont extraordinaires sur mes 6 années en Chine, qui me laissent des souvenirs incroyables. Donc là-bas, je suis productrice. J'arrive dans un studio Ubisoft Shanghai un studio qui est prometteur, mais où il manque d'expertise. Hein. Donc ils font venir des étrangers qui apportent des savoir-faire pour aider les équipes locales à développer leurs connaissances.
Est-ce que ces gens-là sont principalement là pour de l'encadrement?
Oui.
Ou est-ce qu'ils viennent aussi dans les équipes de production?
Bah, au début, comme il y avait peu de choses en production, quand je suis arrivée, je travaillais sur le portage de Rainbow Six 3 sur PS4.
Ouais.
Et donc à l'époque, c'était des petites choses pas ambitieuses du tout. Enfin, pas ambitieuses du tout, non. C'était ambitieux de faire ça, parce que c'était difficile à l'époque de faire du online sur PlayStation. Hein, donc ça, c'était dur. Mais je veux dire, c'était des portages encore. C'était de l'acquisition de compétences. Et après, quand je suis restée à Ubisoft Shanghai, ils sont passés sur des projets beaucoup plus ambitieux, puisqu'ils ont fait la moitié de Splinter Cell Double Agent. Et ensuite,
d'accord,
le projet dont j'étais productrice, qui était une création originale, qui s'appelait Tom Clancy and War.
Ah, c'est cool.
Ouais, donc au début, c'était essentiellement de l'encadrement, de l'acquisition de compétences. Puis après, quand le studio a vraiment pris de l'ampleur et a commencé à faire des productions originales, là... On a fait venir beaucoup de monde qui travaillait aussi dans les productions. On avait des ingénieurs AI, on avait des animateurs, des artistes, on avait tout ce que tu voulais qui venaient. Et sur Tom Clancy Noir, le projet duquel je suis devenue productrice, du coup, qui était une création originale, on a fait venir plus de 50 étrangers. On avait plus de 13 nationalités. Et on était 300 et on a fait le jeu entièrement en Chine avec nos équipes locales. Et c'était le premier jeu et le seul jusqu'à présent qui a été fait entièrement à Shanghai, par Ubisoft Shanghai.
Bah tu vois, je savais pas du tout et pour le coup c'est un jeu auquel j'étais vraiment un fervent défenseur de ce jeu là parce que j'avais beaucoup aimé la tech avec la gestion de micro. Ça parlait vraiment à un public qui était beaucoup plus ouvert que le stratégie normale. Du coup, t'as participé à ramener plus d'étrangers à Shanghai pour aller faire des photos avec les gens, je suppose.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment le début de l'ouverture de Shanghai et après ça n'a fait que s'accélérer à tel point qu'il y avait vraiment beaucoup d'étrangers à un moment même à Shanghai. Je pense que je suis pas retournée depuis 2010, donc ça, tu vois, ça date. Mais
ouais, donc t'es resté quand même longtemps là-bas.
Ouais, je suis restée 6 ans ou presque 7 ans. Donc Anwar, ça nous a pris 4 ans. Il faut savoir quand même que si on avait mis cette technologie de reconnaissance vocale pour donner des ordres, c'est parce qu'on était quand même le premier RTS sur console. C'était un pari aussi un peu fou d'amener ce genre, hein, qui était vraiment un genre PC où t'avais besoin de raccourcis clavier,
etc.,
sur console. Donc on s'était vraiment creusé la tête pour le rendre le plus accessible possible et que tu puisses aussi donner des ordres le plus simplement possible à tes unités. Mmh.
Il y avait des systèmes très très sympas. Je me souviens de quelques systèmes de customisation et d'amélioration des unités. Moi, j'aimais bien ça.
Le directeur créatif de ce projet, hein, qui était une des raisons pour laquelle... Enfin, la principale raison pour laquelle ce projet s'est fait là, c'était quand même Michael De Platter, qui était derrière Rome Total War, qui maintenant est sur tous les jeux Lord of the Ring.
Oui, donc il avait une bonne expérience déjà du jeu de stratégie.
C'est une pointure du jeu de stratégie, encore aujourd'hui. Ouais.
Et alors, ma question évidente, mais peut-être la réponse n'est pas si évidente que ça, c'est des années à Ubisoft, on sait qu'aujourd'hui, ton... nouveau collègue depuis quelques années, c'est Aymeric Toa. Et du coup, vu qu'il a travaillé lui aussi à Ubisoft, est-ce que c'est à Ubisoft que vous êtes rencontrés?
Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, Aymeric, c'était un petit peu la superstar du siège d'Ubisoft, de ce qu'on appelle l'équipe éditoriale. Et du coup, il était envoyé sur toutes les prods qui galéraient.
D'accord.
Je pense qu'il a fait le tour du monde grâce à ça.
J'imagine.
Ouais, donc nous, on l'a fait venir en renfort sur Anwar, notamment sur beaucoup d'aspects, mais en tout cas, il est venu en renfort pendant quelques mois, et il était aussi en renfort sur Splinter Cell, à l'étage du dessous. Donc du coup, je l'avais rencontré déjà, et du coup, bon, on s'est rencontrés là, on a travaillé ensemble à ce moment-là.
Et du coup, lui, il venait donner un coup de main créatif, producing, closer.
Créatif et vraiment, c'était vraiment un game designer, directeur créatif qui était en mode il faut finir, maintenant il faut que ça sorte, allez, on y va. C'est une de ses forces d'ailleurs, c'est qu'il était très fort pour designer des choses qu'on pouvait faire, qu'on savait faire et qu'on allait réussir à faire dans les temps et ensuite les faire arriver en travaillant avec les équipes. Ce qui est aussi une des caractéristiques de Game Bakers d'ailleurs, puisqu'on arrive généralement bien à faire ce qu'on avait prévu de faire dans les temps qu'on avait prévu de faire avec les équipes, et c'est vraiment grâce à lui, donc voilà.
Ce qui n'est sans doute pas très fréquent.
Non, c'est bien pour ça que c'était une superstar, et voilà. Et donc voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors c'est pas à Shanghai en buvant du saké qu'on s'est dit qu'on allait faire Game Bakers du tout. Parce que bon, en plus moi comme j'étais un peu son boss, c'était pas forcément non plus évident. Mais après, quand on est revenu en France, qu'on s'est retrouvés, qu'on se disait, tiens, lui, de son côté, il était allé faire des choses à Ubisoft Montpellier, un beau projet, qui malheureusement n'a pas vu le jour, et lui aussi se disait, bah, qu'est-ce que je vais faire ensuite, parce que ça m'embête quand même de passer plusieurs années de ma vie sur des choses qui ne voient pas le jour, j'aimerais bien que ça se reproduise pas. Et c'est là qu'on s'est décidé à monter Game Bakers ensemble.
Alors, avant de parler de Game Bakers vraiment dans le détail, parce que j'ai évidemment quelques questions à le sujet, la première question, c'est, je me dis, bah, vous, et surtout toi, qui a vous avez parcouru le monde entier. Moi, je me demandais pourquoi vous, avec une telle expérience à l'international, pourquoi vous avez choisi de monter un studio à Montpellier particulièrement?
Eh ben, c'est bien là que je t'arrête tout de suite. C'est que nos studios, il est pas du tout monté à Montpellier.
Ah.
Refais tes recherches. Non, notre studio, il était monté à Paris parce que moi, j'étais parisienne. Mais c'est surtout que notre studio, il a été monté en se disant, on pourra travailler d'où on veut dans le monde. Et c'est le cas. Je veux dire, en fait, je sais pas si t'as vu nos équipes, mais personne, enfin, ils sont quatre à Montpellier. En fait, Nam, notre directeur technique, est à Montréal. Moi, je suis en Suède. Notre directeur artistique technique, il vient de rentrer de son tour du monde d'Australie et de Canada. Donc, en ce moment, il est au Canada. Le designer de combat de Fury, il était en Pologne. Notre lead animateur, il est à Paris, enfin même pas à Paris, à côté de Paris. Notre programmeur AI et autres systèmes, il était vers Toulouse et il vient de s'acheter une maison dans la Cambrousse. Je sais même pas où il habite maintenant, voilà, au milieu de la France. Voilà. Donc notre Mylène qui nous aide en pierre, elle est vers Lyon. Je sais pas non plus où elle habite. Je suis pas assez forte en géographie pour tous les identifier. Donc en fait, ouais, on n'a jamais monté un studio à Montpellier. En fait, c'est juste que Emeric, lui, il avait envie de vivre sa vie à Montpellier. Et c'est un endroit qu'il aime et dans lequel il avait envie de rester. Et donc du coup, lui s'est installé à Montpellier et par facilité, on a ouvert un petit studio là-bas pour avoir une mini équipe là-bas et puis les kits et le matériel. Parce qu'au début, on faisait du jeu mobile, et c'était facile de se balader dans les cafés avec nos Macs. Mais quand on a commencé à faire de la console, c'était un peu différent. Il fallait pouvoir laisser des kits quelque part, avoir des adresses fixes, des choses comme ça.
Alors du coup, vous sortez, vous lancez hein, vers 2010 le studio, c'est quelque chose comme ça, c'est ça?
Ouais, août 2010.
Et du coup, vous partez sur, donc comme tu viens de le dire, du jeu mobile, et notamment sur votre brand Squids.
Ouais.
Alors Squids, j'ai essayé de trouver vraiment une description. Ce que j'ai retrouvé de mieux, je crois que c'était team-based tactical fighting underwater.
Ouais, t'as les mots-clés là.
Tu peux nous le décrire un peu mieux, peut-être?
Non, mais Squids, attends, Squids, c'est une grande histoire épique avec des petits héros poulpes qui vivent sous la mer. C'est une ambiance Star Wars, Lord of the Rings. Ils se battent contre le torrent noir qui envahit leurs océans et qui corrompt tout le monde. Et il se trouve que c'est aussi un mélange de mécanique de je tire sur les tentacules du squid et je le balance, donc un espèce de billard. Avec ouais un jeu tactique combat tour par tour contre des petits ennemis crabes et crevettes hein,
Et c'est devenu une de vos licences phares. Enfin c'est une de vos trois brands aujourd'hui.
Oui, c'était notre gros succès Squid bien sûr ouais, on peut le dire hein, ça a été notre idée c'était tiens, on a qu'à faire des jeux Nintendo sur mobile. Non, je déconne, c'est pas... Si je dis ça, Emmerich, il va pas être contre, parce que lui, il a jamais cherché à faire des jeux Nintendo, mais je veux dire, c'était de faire des jeux avec de la profondeur de gameplay. Donc je redonne du contexte, parce que nos auditeurs ont peut-être oublié qu'en 2010, l'univers mobile était tout à fait
n'était
différent.
N'était pas du tout le même, ouais, c'était ma question suivante. Comment vous avez décidé de vous lancer sur du mobile, alors que vous aviez de l'expérience console?
Donc... On s'est dit, en regardant les jeux qui cartonnaient à l'époque, donc c'était Fruit Ninja et Angry Birds, on s'est dit, mais à un moment, ces joueurs, ils vont vouloir, eux aussi, de la profondeur et du gameplay et des vraies histoires et des choses qui les gardent en haleine, comme sur leur console ou sur leur PC. Et c'est là où on va faire la différence, parce que nous, ça, on sait faire. On sait faire la profondeur de gameplay, on sait faire les contrôles qui vont bien sur toute plateforme, et notamment sur mobile. On sait faire les univers, l'ADA, etc. Donc, on a fait Squids, on a fait un jeu comme ça, qui a l'accessibilité et la prise en main du mobile. Tu prends avec ton doigt, tu touches l'écran, et tu tires sur les tentacules de ton Squid, et tu le balances. C'est hyper sympa comme mécanique, ça marche tout à fait sur un écran tactile. Et en plus, derrière, t'as notre petit tactical RPG, quoi, avec tous les petits persos qui ont leur petit casque, qu'il faut upgrader, ils ont tous des classes, ils ont des pouvoirs différents, et puis tu les mets en combat contre des créatures, et tu vis ta grande aventure pour essayer de sauver tes océans, etc. Et donc nous, on s'est dit, on va faire ça, parce que les joueurs, ils auront eux aussi envie, un jour ou l'autre, de jouer à des vrais jeux. Et on avait raison, sauf qu'on avait 10 ans d'avance. Non, je rigole, je t'ai piqué ta ligne. Mais non, on avait bien raison que les joueurs allaient avoir envie de profondeur et de jouer à des vrais jeux sur mobile. Il n'y a qu'à voir Fortnite. Mais on avait mal anticipé le fait que quand même le free-to-play à l'époque était juste frétillant. Quand on y était, c'était encore du premium, enfin du paid, quoi, des jeux payants. Et on avait mal anticipé le fait que le free-to-play allait complètement embarquer la maison, quoi, et que du coup ça allait changer la donne et que les joueurs ne seraient plus prêts à payer pour des expériences de jeu qu'ils pouvaient avoir gratuitement. Et du coup, on a fait un Squids qui était un beau succès, hein, un très beau succès critique, ça c'est clair. Puisque les gens disaient, mais c'est génial, il y a un vrai jeu sur mobile. Qui sont ces fous qui ont fait un vrai jeu sur mobile? Et bah ouais, c'était nous, donc ils ont tous aimé. Et les joueurs ont beaucoup aimé aussi. Alors après, on en a vendu suffisamment pour rentabiliser le projet et faire un peu de profit, mais on a surtout eu beaucoup de downloads gratuits. On a eu plus de 3 millions de downloads gratuits à l'époque.
Ah ouais.
C'était pas, et c'était très mal monétisé. En fait, on utilisait quasiment rien. On avait quelques in-app. Tu pouvais faire tout le jeu sans rien acheter, quoi. In-app purchase. Et donc on n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais on s'est dit c'est pas grave, on va faire un 2 qui va être encore meilleur. Regarde, on a tout de près là, ça va être canon. Et effectivement, on a fait un 2 qui était encore meilleur. Faut savoir que nos jeux, ils ont toujours été featurés par Apple et par Google, et ils avaient 4,5 ou 5 étoiles. Et je me souviens que le deuxième, Squid Wild West, qui se passait donc dans le Wild West, il a été noté parmi les 10 premiers, enfin les 10 meilleurs métacritiques de l'année sur mobile. Donc on avait fait un jeu encore plus beau, puis on s'est dit, bah tiens, ça se voit encore moins.
Ah bon?
Bah ouais, parce que on était un, sur un marché qui était en train de partir en free-to-play, et deux, sur un marché qui était drivé uniquement par la nouveauté. Et nous, on arrivait avec le 2 d'un jeu qu'ils avaient déjà vu.
Et c'était une version premium.
Toujours, d'accord. Parce qu'on n'a jamais fait le switch, en fait, vers le free-to-play. Et donc on s'est dit, parce qu'on croyait vraiment dur comme fer à ce qu'on faisait, qu'il y aurait toujours de la place, on pensait, pour du paid sur l'App Store. On s'est dit, c'est pas grave, notre problème avec Squid, c'est surtout qu'on l'a mal positionné, parce que tu vois, t'as des visuels un peu cute et une DA qui fait qu'on croit que c'est un jeu pour enfants, mais en fait, ouais, ça demande quand même de la dextérité et de la profondeur, t'en as pour des heures de jeu, machin, etc. Donc ça se trouve, on s'est juste planté sur la façon de faire notre package et de le positionner et de le vendre, donc reprenons-nous et faisons mieux. Et du coup, on a fait Combo Crew, notre petit jeu de combat sur mobile.
Qui était un petit, donc c'est un jeu de, un peu la Streets of Rage adapté au mobile, quoi.
C'est ça, avec des super contrôles, pareil, très bien inventés, qui marchent nickel, t'as pas besoin d'avoir un faux contrôleur, tu slashes avec tes doigts, etc. Tout mignon, et dedans, on a fait un partenariat avec Capcom, on avait des persos de Street Fighter, etc. Donc c'est pareil, on a eu encore un marketing encore meilleur et une réception critique aussi bonne et une mise en avant sur les stores encore meilleure que les deux autres. Et alors là, c'est encore pas vendu plus non plus. Donc là, bah, on s'est assis, on s'est dit, bon, bah écoute, on se retrouve à Lyon, je me souviens, j'habitais à Lyon à l'époque.
Je fais une petite pause, je me dis, justement, sur ces projets, toi, tu interviens comment, sur quoi, sur quel sujet
Ouais, c'est une bonne question. Alors au début, on pensait, parce que moi je suis productrice à l'origine, et Aymeric, créatif directeur. On s'était dit au début, ben Aymeric va faire créatif directeur et moi je vais faire la productrice. Alors qu'au final, il n'y avait pas du tout besoin d'avoir une productrice quand on était cinq. Et en plus, Aymeric a des qualités de producteur extraordinaires aussi. Donc au final, au début, je faisais un peu ça, puis après, ben, ça marchait moins bien. Puis en plus, on est tous à distance, tu vois. Donc bon, autant que le créatif directeur, quand il est producteur, parle directement avec son équipe et qu'il n'y ait pas un producteur derrière qui suive. Donc au final, c'est lui qui faisait la direction créative et la production, et qui le fait sur tous nos jeux. Mais moi, je fais de la production exécutive, ça veut dire que déjà, hein, je m'occupe de tout ce qui n'est pas directement les équipes que lui gère, donc ça peut être les enregistrements, la loc, le test, les soumissions, etc. Et puis, je fais un peu de direction narrative, ou en tout cas de narratif. Sur Squeeze, j'ai travaillé sur la création de l'univers, travaillé sur l'histoire, travaillé sur les personnages, avec aussi notre directeur artistique qui était très impliqué, puis Émeric, bien sûr. Et sur Fury, par exemple, j'ai écrit les dialogues, j'ai conçu l'histoire et la fin notamment, et ce genre de choses. Je fais à la fois essentiellement la production exécutive, un peu de narratif, ça dépend des jeux. Et je fais tout ce qui est business, gestion de studio, dev, publishing, marketing et ces choses passionnantes.
Ok. Du coup, t'as combiné un peu ce qui t'a fait rentrer dans le jeu vidéo, qui était un peu ton hobby, et ce que t'es devenu dans ton métier. Donc ça doit tu dois être plus épanoui. T'es arrivé au c'est le climax de ce que tu pouvais espérer, non?
Alors c'était pas mal vrai sur Fury, mais malheureusement sur notre prochain jeu là qui va sortir l'année prochaine, ça s'est pas goupillé comme je voulais.
Donc votre prochain jeu qui s'appelle Haven, dont on entendra plus parler d'ici quelques mois.
C'est ça. Cet été on va montrer un petit peu de gameplay, ça va.
Et donc j'ai vu aussi que vous avez travaillé pour Nickelodeon.
Alors oui.
Alors comment c'est arrivé ça?
Alors nous, on finit comme beaucoup et on se voit avec Aymeric à Lyon dans une brasserie qui faisait sa propre bière. Important. Et on se
On
dit.
peut donner des marques, hein.
Ouais, j'ai oublié, c'était vieux, c'était quand même 2013 tout ça, tu sais, j'ai une mémoire de poisson. Donc on se dit, bon, écoute, on a qu'à retourner faire du jeu console et PC parce qu'après tout, nous on joue sur console et on est des joueurs à console, on développe dans nos têtes, on a développé pendant 10 ans chez Ubi sur console. Retournons faire de la console. En plus, cette scène indé, elle est parfaite pour nous. Il y a de quoi faire. Maintenant, on a suffisamment d'expérience pour aussi faire des plus gros budgets que ceux de nos jeux mobiles. On est fort en jeu de combat. On est fort en jeu d'action. J'ai cette idée dans la tête, dit Emeric, depuis 10 ans, de ce jeu où tu fais que du boss fight. On y va. Alors évidemment, on y va parce qu'on se dit, mais ouais, bien sûr, on a un truc unique, spécial, avec vraiment des aspérités qui vont le faire sortir du lot des jeux indés, etc. Mais on se dit, voilà, on y va, mais ça va nous prendre du temps quand même. Donc comment on fait pour tenir jusqu'à ce que ça sorte, tout en restant indépendant, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un publisher. Et c'est là où on parle avec Nickelodeon et ils voudraient qu'on fasse un jeu de combat beat'em up pour les Tortues Ninja. Évidemment, c'est beaucoup de ce qu'on a déjà fait sur Komboku. Donc on a réutilisé énormément de notre expérience sur Komboku pour faire un bon petit jeu de combat avec les tortues, qui est sorti en même temps que le film de Michael Bay. C'était vraiment un outil marketing, hein, pour Nickelodeon, et qui nous a permis de faire une petite marge et du coup de faire Fury derrière tranquillement. Enfin de commencer
D'accord.
Fury derrière tranquillement jusqu'à avoir un prototype qui tourne pour aller chercher plus de sous pour boucler notre budget.
D'accord. Et du coup, c'est dans cette transition-là où vous avez pu aller voir. Il me semble que c'était avec Sony au début.
Ouais, donc on est là, on cherche des sous pour Fury. À l'époque, on devait chercher dans les 1 million. Au final, Fury, il aura coûté plus qu'un million d'euros, mais à l'époque, on devait chercher dans ces montants-là. Et on va voir Sony. À l'époque, Sony avait une équipe géniale qui s'appelait Strategic Team, qui était tenue par Shahid Ahmad et Ben Andak, et qui sont tous partis maintenant de Sony, qui font d'autres choses extraordinaires. Et leur truc à eux, à l'époque, en plein début de la PS4, c'était de pousser les indés. Et donc, du coup, on arrivait avec une vidéo de ce qu'on voulait faire et notre historique. Et ils ont été séduits. Ils ont dit, d'accord, on le prend. Et donc, en fait, on prend, ça veut dire juste, ils nous le laissaient, en fait, le jeu. C'était, on allait toujours le publier nous-mêmes et tout faire nous-mêmes. Mais ils l'achetaient pour le mettre en jeu PlayStation Plus du mois. Jeu gratuit PlayStation Plus du mois. Contre une flat fee qui nous permettait de financer presque la moitié du jeu.
Donc intéressant.
Intéressant pour nous parce que du coup on conservait notre indépendance, on arrivait toujours à être multiplateforme puisqu'on pouvait lancer sur PC en même temps, sur Xbox ensuite et que la Switch n'existait pas encore à l'époque et qu'on n'allait pas aller sur Wii U parce que ça marchait pas. Faut dire comme ça, hein. Et du coup, avec l'aide en plus du CNC, tu sais que le CNC qui subventionne beaucoup la création française, le fonds d'aide aux jeux vidéo, plus le crédit d'impôt jeux vidéo, qui est un autre gros dispositif qu'on a la chance d'avoir en France, qui est quand même incroyable. Avec tout ça, on arrivait à faire notre petit budget de Fury tout seul dans notre coin, sans rien. Puis nos économies, hein, bien sûr, de Squids, de Combo Crew, des Tortues Ninja, etc. On arrivait à boucler notre budget et à faire notre Fury tout seul, ce qui était un peu notre rêve.
Et l'équipe là-dedans grossit un petit peu?
Ouais, l'équipe grossit, alors les gens grossit doucement parce qu'on essaye de pas grossir. On est toujours très conscient du fait qu'on est plus agile et plus créatif et en petite équipe de seniors qu'en grosse équipe qui t'oblige un petit peu. Quand t'as une grosse équipe à payer tous les mois, et ça t'oblige à penser différemment que quand t'as des petites équipes agiles et seniors.
Oui,
et
puis en plus, étant donné que vous êtes pas au même endroit, ça complexifierait un petit peu les choses, je pense.
On est quand même monté à 25 sur Fury, tu vois, et ça s'est bien passé aussi. Et là, sur Even, on est une vingtaine aussi, hein, donc...
Ah oui, donc ça fait déjà un peu de monde.
Voilà.
Et donc du coup, là, sur Fury, qui est un succès, en tout cas... Tu vas peut-être nous le dire, mais vu de l'extérieur, ça a quand même été un succès assez prononcé, Fury. Donc toi, donc tu nous as dit que tu t'occupes sur des dialogues, etc. Comment vous avez mis en place un peu comment t'as travaillé pour mettre en place cet univers
On est une petite équipe, hein, donc il faut savoir qu'on travaille énormément tous ensemble. Et moi, je suis pas la personne derrière un élément clé du jeu. Donc, on travaille beaucoup avec le gameplay en tête. Et du coup, on a fait venir, tu sais, Takashi Okazaki, là, le character designer japonais.
Je suis pas sûr d'avoir ses références.
Créateur d'Afro Samurai.
D'accord.
Il a fait énormément de chara-design pour des gros jeux. Et il est ultra talentueux. Et donc, en fait, avec Emmerich, on s'est assis, on a regardé notre jeu Fury. On s'est dit comment on pousse tous les aspects du jeu qui sont vraiment... qui peuvent vraiment... le rendre différent et exceptionnel et le faire sortir du lot, parce qu'on avait bien conscience que dans la masse de jeux qui sortaient tous les mois, il fallait des assets et des aspérités et des points qui allaient rendre le jeu différent. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a décidé de travailler avec un des meilleurs character designers japonais du monde. On est allé voir Takashi, il a dit oui, on était ravis. Et donc du coup, par exemple, tu vois, pour la création des univers, Emmerich le briefait sur le gameplay qu'il voyait pour le boss. Donc évidemment, on s'était assis avec Emmerich et on avait discuté des valeurs qu'on voulait voir dans le jeu, de l'histoire générale, qui était aussi inspirée pour lui du mythe de Thésée, mais à l'envers, etc., etc. Et à partir de tout ça, on travaillait sur chaque boss pour essayer de faire passer dans chaque boss les valeurs qu'on voulait faire passer et l'histoire qu'on voulait faire passer dans le jeu. Et donc, c'était des allers-retours. On envoyait un brief gameplay, il renvoyait un character design. On disait, ah mais ouais, bien sûr, c'est trop bien cette idée-là. Bah du coup, lui, il va être plutôt comme ça, comme ça. Et puis, après, on s'asseyait avec les artistes d'Enviro. Enfin, on s'asseyait virtuellement, puisqu'on est tous à distance. Et on disait, ouais, ce serait cool de capturer cette idée dans l'Enviro. C'est une prison. Il rentre dans une prison, taratata. Et donc, on faisait des sketchs. Et puis voilà, et puis ainsi de suite. Comme ça, on construisait... tous nos petits personnages et tout notre univers, et puis les dialogues qui allaient bien, et puis à la fin on s'est creusé la tête pour trouver une fin géniale, et puis on en a trouvé une, moi je trouve que c'est une fin géniale, très modestement. Mais
ne spoilons pas.
Voilà, pas spoiler. Voilà, et ainsi de suite, quoi. Ça se passait comme ça, avec des allers-retours, essentiellement avec Simon Trousselier, qui faisait de la conception d'univers, Anthony Bayer qui fait toute la DA technique du jeu, et puis Emmerich et Takashi, et moi.
Très belle aventure. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que ça fait vraiment une belle expérience et que vous êtes... En fait, la question que je me posais au début, c'est pourquoi vous avez switché du jeu mobile au jeu console. Mais là, on comprend clairement qu'au final, vous êtes revenu plus à vos sources et à ce que vous vouliez vraiment faire, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, mais vraiment faire et vraiment envie de produire. Et ça fait plaisir à entendre parce qu'on sent que c'est vraiment un projet qui vous a vraiment porté pendant un long moment. Et...
Alors Fury, ça a été dur, mais je crois que c'est bien que tu m'interroges en 2019, parce que à chaque fois qu'une année passe, j'en garde encore plus un côté complètement idéaliste. Des fois, Emery qui me dit « Non, mais tu sais, quand même, on en a chié. » Je lui dis « Oui, mais quand même, t'as vu comme tout s'est aligné avec ce projet. On a eu une chance incroyable. » Parce qu'on a parlé du character designer, qui était une chance incroyable. Mm-hmm. On a parlé de l'histoire, ça s'est bien copié aussi. Mais on a la bande-son aussi, je veux dire. On a pris un pari fou de faire cette bande-son électro en faisant venir. Au début, on voulait un musicien pour chaque boss. Et puis au final, on en a sept quand même. C'est déjà pas mal. Et c'est pareil, la bande-son, c'est un énorme succès. C'est une des bandes-sons qui s'est le plus vendue sur les deux années après la sortie de Fury. Donc, c'est un petit peu tout qui s'est aligné pour en faire le succès que c'est devenu. Et le plaisir qu'on a eu à le faire aussi, ça vient du fait que Emmerich avait vraiment réfléchi son projet et il avait pensé, il l'avait bien conçu dès le début, même si évidemment il y a eu des surprises et des moments de prototypage et de recherche et des moments de doute. Mais quand tu vois dans Fury, quand tu vois la vidéo qu'on a faite en 2014, quand on a commencé le projet, qu'on l'a vendu à Sony, qui était une vidéo avec du fake footage, en fait, avec les modèles, oui, comme dans le jeu, mais c'était fait sous Maya, et sous Maya et Unity, quoi. Et quand tu vois la vidéo de ça et la vidéo du jeu final, des fois, tu n'arrives pas à faire la différence. Enfin, c'est très, très proche, quoi. Donc, on a réussi à avoir un projet qui était vraiment sur les rails, et on n'a pas fait d'erreur, on n'a pas cherché dans tous les sens avant de trouver la bonne recette, et au contraire, les choses sont venues se renforcer les unes les autres, naturellement, la bande-son, character designer... l'histoire, les gameplays, tout ce qu'on a trouvé sur l'alternance du combat rapproché avec le combat à distance, et puis ensuite derrière la difficulté, qu'on n'avait pas prévu Fury pour être un jeu ultra hardcore par exemple.
D'accord.
Et au final on s'est aperçu qu'on avait une pépite hardcore dans les mains, donc après on a rajouté le speedrunning et tout ça, enfin tu vois, ça c'est ouais, c'est venu se renforcer, puis ça a fait qu'effectivement ça a été un gros succès. On ne saura jamais si on aurait été milliardaire à GameBakers si on n'avait pas eu ce deal avec Sony, puisque tu as eu quand même 3 millions de downloads gratuits.
Ouais, on se rend compte que le Play Store aujourd'hui a un impact énorme, et même sur les ventes et sur les autres plateformes. Il me semble que les mois de free sur PS Plus font monter aussi donnent de la visibilité, et font monter les ventes sur PC et Xbox aussi.
C'est ça, sauf que quand tu sors ton jeu gratuit le premier mois, forcément tu te coupes d'une grosse partie de tes ventes. Donc effectivement, ça nous a donné une visibilité extraordinaire, et d'ailleurs si on avait à le refaire, ce deal on le referait, on s'est déjà posé la question plein de fois, on le referait parce qu'on pense que ça nous a donné un boost de visibilité qu'on n'aurait jamais, évidemment jamais eu sans Sony, mais il y a aussi le fait qu'on a perdu, une de nos plateformes, quoi. On en avait deux au lancement, donc on a fait que des ventes sur Steam, et forcément les ventes premier mois de Steam ont été impactées par ce jeu gratuit PlayStation Plus, et aussi impactées par le fait que l'on est sorti juste derrière les soldes.
Donc gros pari risqué, quoi.
Bah ça c'est pas le choix de la date de sortie, malheureusement c'est Sony qui nous l'a un peu imposé, donc on n'a pas trop pu bouger, mais ouais c'était pas idéal, mais bon, en tout cas, malgré ça, malgré le fait qu'on a perdu tous les mois de nos ventes, et que nos ventes PlayStation, elles sont jamais vraiment remontées, hein. Ça c'était des blagues, on a jamais vraiment beaucoup vendu sur PlayStation, mais par contre, on a vendu sur Steam, on a énormément vendu sur Switch aussi, et sur Xbox, on s'en est sorti assez moyennement. Mais voilà, donc l'un dans l'autre, on a un projet qui, depuis 2016, nous met... Nous amène notre assiette tous les jours sur la table, nous permet de continuer à travailler sans qu'on ait besoin de soucier d'aller chercher des financements pour faire notre prochain jeu. Et ça, c'est quand même du bonheur.
Eh ben, c'est super, je te remercie beaucoup. On va passer à une dernière section, un dernier gros sujet aujourd'hui de ces dernières années pour toi, qui est évidemment la présidence, si je dis pas de bêtises, tu me corriges vraiment si je dis des âneries. De l'association Women in Games, pour laquelle tu es engagé, et d'ailleurs que tu as fondé, il me semble, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, enfin, pour les auditeurs qui n'auraient pas conscience, évidemment, de l'existence de l'association et du mouvement, Quelles sont vos actions, vos objectifs déjà dans un premier temps?
Absolument. Donc, Woman in Games, c'est facile d'en être présidente quand on l'a créé, hein. C'était malin de ma
Donc tu
part.
l'as cofondé, hein, mais on peut citer, tu l'as cofondé avec Julie Chalmette, c'est ça?
Oui, c'est ça.
J'ai pas dit de bêtises, voilà. Qui est aujourd'hui présidente du SEL, donc du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le Noir à l'Ange.
Et aussi la directrice générale de Bethesda France. Moi, j'habite en Suède, hein, donc je vis pas en France. J'ai pas vécu en France. J'ai vécu en France un petit peu entre 2000. 10 et 2014. Mais sinon, ça fait longtemps que je ne vivais plus en France. Du coup, je fais le tour de Fury, puisque je m'occupe donc de la promotion, comme on a dit, du jeu. Donc avec Fury, je fais le tour du monde. Je vais à la GDC, je vais ici et là. Et je suis à la GDC, je suis notamment aidée par une association qui s'appelle Pixel, qui est une association nord-américaine, enfin québécoise. Qui me paye mon billet parce que juste parce que je suis une femme et j'y vais et à la GDC, c'était ma première GDC et je vois tous ces super nanas Women in Gaming organisées par Microsoft, une grosse journée de enfin un lunch de conférences et de networking etc., etc. Et je me dis mais ouais bon bah moi je ne connais pas en France l'équivalent parce que c'est parce que j'ai pas vécu en France en fait mais il doit y avoir des choses comme ça qui aident les femmes à s'épanouir dans cette industrie et qui compense un petit peu les inégalités de la société. Mais en fait, je cherche et je demande à tout le monde, mais alors en France, il y a quoi? C'est quoi déjà? Et tout le monde me dit, ben non, il n'y a pas en France, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et en même temps, je vais à la remise des prix de Fury au Ping Awards, où je suis assise avec Julie, qui est quand même Julie Chalmette, qui en plus d'avoir les postes que tu as dit, c'est aussi une amie de 20 ans, puisqu'on a commencé ensemble chez Gallimard.
Ah, d'accord, ah oui, effectivement, donc ça remonte.
Voilà, sauf que elle est partie du côté de l'édition et moi je suis partie dans le dev ou restée dans le dev. Et donc je lui dis et on est toutes que nous deux à monter sur scène. Elle y monte dans le cadre de la remise des prix à Arcane et moi j'y monte pour Fury et on est les seules femmes à monter sur scène et on se dit quand même c'est bête. Et regarde la salle et il y en a pas tant que ça, etc. Et du coup on se décide hein, en dépassant comme souvent. Dépassant toutes les questions qu'on peut se poser et toutes ces interrogations du genre ah mais ouais est-ce que je suis vraiment la mieux placée pour faire ça? Hein? Est-ce que moi Audrey Le Prince qui vit en Suède et qui vivait en Chine avant et qui n'a jamais vraiment travaillé en France suis-je la meilleure personne pour monter cette association? Donc elle pareil elle se pose d'autres questions suis-je vraiment la meilleure personne pour faire ça? Et au final on se décide que ben tant pis on n'a qu'à le faire et qu'on verra bien. Et ce que j'encourage d'ailleurs beaucoup de femmes à faire, et beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs. Et du coup, on la monte après avoir fait un rapide tour de marché en demandant à tout le monde, alors vous en pensez quoi? Est-ce qu'on devrait le faire? Et tout le monde disant oui. Et même d'ailleurs, je dois dire, la grosse surprise, c'était vraiment de se dire, mais non, mais en fait, on n'a pas besoin de faire ça, c'est trop tard, on aurait dû faire ça il y a 20 ans quand. Il y avait vraiment très très peu de femmes dans l'industrie, mais là, regarde, ça s'améliore d'année en année. Et donc on parle à des petites jeunes fraîchement sorties de leur école de jeux vidéo, ou même qui sont encore, et qui, elles, nous disent qu'elles ont vécu ou qu'elles vivent des inégalités, et qu'elles vivent du harcèlement, qu'elles vivent du sexisme, que nous, Julie et moi, on n'a jamais vécu, par exemple. Non. Alors là, on s'inquiète vraiment. On se dit, bah ouais, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on monte l'association Women in Games France, dont l'objectif est tout simplement d'avoir plus de mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Donc on s'est mis pour objectif de la doubler en 10 ans. Et donc les chiffres de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est à peu près 15% de femmes dans les studios, un peu plus 20% et quelques dans les écoles, avec des grosses disparités si c'est des écoles plutôt axées ingénieurs ou des écoles plutôt axées art. Et chez les éditeurs, t'arrives à, si tu rajoutes tous les métiers, édition, support, marketing, communication, ressources humaines, tu arrives à 50% de femmes. Dans l'e-sport, par contre, tu tombes très bas aussi, tu tombes en dessous de 5%.
D'accord, donc vous n'êtes pas focus particulièrement sur les développeurs, le côté prod. C'est vous adresser à tout le monde qui travaille, tous les gens qui peuvent toucher à l'univers du jeu vidéo, hein.
C'est ça, on a même des influenceurs, créateurs de contenu, streamers, youtubeurs, twitchers, on a
D'accord,
même des
d'accord.
journalistes, on a même des gens qui sont dans la loc, qui sont dans le test, enfin oui, on inclut tous les métiers qui touchent de près ou de loin aux jeux vidéo.
Du coup, vous allez vous adresser aux entreprises ou aux écoles, vous allez vers qui? Bon, principalement, en premier.
On s'adresse principalement aux professionnels. On a plusieurs axes de travail, en fait. Si tu veux, on a à la fois on s'adresse aux professionnels, mais on a aussi pour devoir de toucher le grand public pour faire passer le message que l'industrie du jeu vidéo est une industrie qui est une industrie qui accueille les femmes et dans laquelle on peut faire de très belles carrières. Donc on a un peu un double, on a un peu un double discours. On a nécessairement besoin de faire changer l'industrie elle-même, mais on a aussi besoin de faire connaître les opportunités de l'industrie au grand public. Donc on a plusieurs axes de travail. Notre premier, c'est de rendre les femmes du jeu vidéo qui sont déjà visibles. Ça crée comme un cercle vertueux, si tu veux. Plus il y a de femmes visibles, plus ça crée des rôles modèles pour des jeunes filles qui hésitent à rentrer dans l'industrie, plus il y aura de jeunes filles qui vont rentrer, plus celles qui y sont se disent « Mais ouais, bien sûr, moi aussi, je peux faire carrière. Regarde, elle l'a fait. » etc., etc. Donc ça, on a une liste d'intervenantes, d'expertes, on a à peu près 120 femmes qui sont prêtes à aller prendre la parole, si t'as une conférence
d'accord.
qui se monte.
C'est un peu vos portes étendards, du mouvement.
Alors non, justement. Elles sont absolument pas du tout là pour parler de Women in Games. D'ailleurs, on aimerait
d'accord.
que personne ne parle de Women in Games, mais elles sont là pour parler de leur métier. Ce sont des
d'accord.
expertes. Hein, on a absolument pas envie que les gens viennent nous voir en disant on veut parler de la mixité dans le jeu vidéo. Non, nous, tout ce qu'on veut, c'est que quand il y a un plateau de télé ou quand il y a une conférence, tu aies autant de femmes que d'hommes autour de la table. Que ça reflète la diversité de notre industrie qui est grandissante. Donc voilà. Donc non, nous, on veut juste que les expertes qui sont là s'expriment et prennent leur place aussi sur le devant de la scène et que on n'entende pas uniquement parler des hommes du jeu vidéo. C'est tout.
tout à fait. Et du coup, vous intervenez aussi dans les écoles spécialisées ou même avant, c'est-à-dire pour sensibiliser, hein, c'est possible de faire ces carrières-là, comme tu le disais.
Ben oui, oui. Alors effectivement, nous, on intervient dans des lieux grand public. On a la chance de rencontrer le grand public, notamment à la Paris Game Week. On a fait pendant 2 ans, on est à la Paris Game Week où on rencontre le grand public et on avait des équipes qui allaient à la rencontre des parents et des enfants en leur disant des petites filles, notamment en leur parlant des métiers. On faisait des ateliers code aussi avec Tralalair pour faire découvrir le jeu vidéo aux plus jeunes. Donc on a tout un tas d'actions, un panel d'actions incroyables. On fait des formations à la prise de parole, on fait des sensibilisations au bien conscient. On a beaucoup de choses en cours dans tous les sens en fait pour aider à renforcer la mixité parce qu'effectivement c'est un problème vaste et qu'il faut adresser à la fois au sein de l'industrie et en dehors dans la société.
Donc il y a toute cette sensibilisation que vous faites à côté et à côté alors je sais pas comment tu peux décrire ça, mais c'est envoyer justement ces membres de l'association sur des événements. Est-ce qu'elles interviennent pour l'association ou est-ce qu'elles c'est juste pour les faire participer à un événement et les mettre elles en avant?
C'est bien que tu poses cette question parce que faut que ce soit hyper clair. On ne veut jamais que personne ne parle de Women in Games. On est là juste pour que les femmes, qui sont des expertes elles-mêmes de leur métier, soient invitées à s'exprimer de façon plus systématique.
Au moins, c'est clair. Quoi. Ça, c'est...
Si quelqu'un est invité sur un plateau, ou sur une conférence, ou sur une table ronde, ou même dans une médiathèque, elle va parler de son métier, de son expérience de femme au sein de l'industrie, et de son métier, elle va avoir des sujets pointus, là, voilà, c'est tout. Elle va parler de ça, ce qu'elle fait au quotidien, voilà. Donc c'est vraiment chaque femme s'exprime sur son métier et c'est juste le fait qu'il y a des femmes qui s'expriment qui changent petit à petit la perception de l'industrie, c'est ça l'idée générale. Tu vois encore d'ailleurs, tu vois, il y avait une grosse réunion e-sport l'autre jour importante, il y avait que des hommes blancs de 45 ans
qui font du business.
Donc il faut, voilà, donc nous on a la chance qu'on a une industrie qui est à la fois une industrie créative
multiculturelle et
on a de la mixité dans notre industrie et on pourra en avoir davantage et d'ailleurs on appelle pas juste à de la mixité mais à la diversité au sens large. Il faut juste que ça se voit plus, qu'on arrête d'avoir toujours les mêmes personnes qui parlent en petit cercle fermé. Et voilà. Et petit à petit, cette visibilité-là, ça va aussi changer l'industrie elle-même. Mais bon, y on a des axes de travail de tous les côtés. Hein. On travaille aussi avec les entreprises du jeu vidéo pour essayer de sensibiliser les managers et les recruteurs au bien conscient, par exemple. Le fait que toi et moi, on pense qu'on n'est pas sexiste et d'ailleurs, on n'est pas raciste non plus. Et on a probablement très peu de défauts, mais en fait, on en a quand même un petit peu, parce qu'on a, toi et moi, des biens conscients que quand on voit ça, ouais, ben, malgré tout, notre cerveau nous court-circuite sur une prise de décision. Et donc, si on arrive à identifier nos biens conscients, on devient d'un seul coup beaucoup plus attentifs et on arrive à les intercepter et à lutter contre eux. Mais si on ne s'aperçoit pas qu'on est comme ça, on peut continuer à reproduire des choses très longtemps. Hein. Donc c'est ça la clé, c'est de faire en sorte que les gens s'aperçoivent qu'ils ont, même s'ils pensent qu'ils ne sont pas sexistes et que c'est dépassé et tout ça et que ça n'existe plus, que bien sûr ils font la vaisselle à la maison aussi souvent que leurs copines. Peut-être qu'ils ont encore quelques biais sexistes par ici qui traînent, tu vois, et donc on identifie et puis voilà.
Bah tu vois, comme quoi de s'être lancé là-dedans, tu vois, c'est toujours intéressant de se dire est-ce que il y a quelqu'un qui le fait et de prendre les devants pour réussir à aller sur ce genre de sujet. C'est super, merci beaucoup. J'aimerais, à moins que t'aies quelque chose à rajouter sur l'association.
Ouais, je précise juste que c'est ouvert aux hommes comme aux femmes. On a beaucoup d'hommes dans l'association. Tout le monde est bienvenu, c'est gratuit. D'être membre, c'est gratuit. On est tous des bénévoles, donc on a plein de sujets à faire avancer. Là, on fait une game jam à la fin de l'année. On va faire un event de streaming. Voilà, on a plein de choses qui avancent. On a des formations à la prise de parole. On a des ateliers, voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire à travers la France. On n'a pas besoin d'être à Paris ou n'importe où. Hein. On peut même le faire de Suède. Donc voilà, welcome.
On peut retrouver tout ça sur le site de Women in Games France, sans souci. Et j'ai juste encore quelques questions pour clôturer cet épisode qui se ressentent vraiment sur toi. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton taf ?
Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de faire des choses concrète en fait, c'est que quand on sort un jeu, quand il arrive sur le marché, c'est un tel bonheur parce que et ça c'est vraiment le grand bonheur de Game Bakers, c'est que bah, parfois tu travailles dans des grosses boîtes, tu travailles sur des gros projets et puis il y en a certains qui voient pas le jour et d'un seul coup t'as 4 ans de ta vie qui viennent de disparaître et il y a plus de traces, alors que quand tu sors tes jeux, bah, Game Bakers on les a tous sortis. Et ben ils sont là, ils vivent, il y a des gens qui les aiment, il y a même des gens qui t'écrivent pour te dire que ils ont trouvé ton jeu génial et mémorable et que ça, surtout sur Fury on a eu ça, mais on a encore ça aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent votre jeu a changé ma vie. Alors bon, évidemment, il y a aussi des gens qui nous envoient des menaces de mort, ça arrive.
Mais c'est vrai, même pour Fury.
Ouais,
même pour Squid.
Non, pas pour Squid dans ça, donc quand même. Mais voilà, donc ça le bonheur de faire que des choses arrivent. Tu vois, ce moment où entre en parler et avoir des grandes idées et les faire sortir sur le marché, et ben c'est ça ce dont je suis fière et qui me fait me lever tous les matins.
Qu'est-ce que t'aimes dans l'industrie et qu'est-ce que tu détestes? Parce que du coup t'as vu pas mal de choses passer et je me doute que c'est des choses que t'essayes de reproduire ou pas à Game Bakers.
Moi, ce que j'aime dans l'industrie, c'est que on a un contact direct avec les gens qui jouent, avec nos consommateurs. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire de savoir que maintenant même tu... Peut-être bientôt, on n'aura plus besoin d'avoir l'interface des stores ou des consoles et on pourra vraiment parler directement avec tous nos joueurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment chouette d'avoir un produit que tu lances et ben les gens, ils jouent et puis ils te parlent et tu leur réponds. Tu leur réponds directement, en fait. C'est assez assez précieux, je trouve. C'est peut-être pour vous, la nouvelle génération, c'est peut-être un truc qui paraît normal, mais nous, on vient de... Ben, moi, je viens d'une époque où, pour sortir un jeu, il fallait avoir signé chez Sony ou machin, ou truc, et du coup, c'est eux qui avaient les consommateurs, toi, tu les avais jamais en direct, en fait. Tu leur parlais pas, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est ce monde interconnecté où tu peux entendre tout le monde. Et leur répondre et aussi la diversité des gens qui en parlent. Ça j'aime beaucoup qu'on fasse enfin des jeux qui ne sont plus uniquement marketés pour les jeunes hommes blancs et que on ait des jeux qui vont parler à tout le monde quoi, qui vont voilà, qu'on ait des jeux pour n'importe quel type de profil, que la grand-mère d'Emeric, parce que la mienne est morte, elle joue aux jeux vidéo, voilà. Donc voilà, ma nièce, elle joue aux jeux vidéo. Enfin voilà, ça a vraiment changé. Ça, tout le monde joue aux jeux vidéo maintenant. L'image de geek du jeu vidéo, c'est presque fini, quoi.
Bah, c'est tellement devenu, oui, c'est mainstream, quoi.
75% des Français jouent régulièrement aux jeux vidéo. Et l'âge moyen, je crois que c'est 37 ou 39 ans. Donc tu te rends compte, ça veut dire que voilà, c'est une rentrée dans les mœurs.
Tant mieux pour nous.
Ce que j'aime moins, c'est quand l'industrie a des réactions, voilà, un peu moins, un peu élitistes, pas assez généreuses, pas assez ouvertes, ou des choses comme le Gamergate, ou des choses comme ça, où d'un seul coup, toute une partie de la population se sent menacée et fait que on est plus porte ouverte quoi. C'est plus venez tous comme vous êtes. C'est il faut jouer comme vous êtes. C'est il faut jouer selon certaines règles et penser selon certaines règles. Et ça c'est un peu moins agréable.
Quel a été pour toi le plus gros challenge que t'aies eu à relever dans ta carrière?
Mais moi, je sais pas très bien, mais on me dit, ouais, c'est quoi les difficultés que t'as rencontrées? Je crois que le plus dur, c'est d'avoir des enfants. Donc je profite de ta plateforme pour faire passer le message. C'est extrêmement difficile d'avoir des enfants et ça demande énormément de temps. Donc, y a certaines d'entre vous ou certains d'entre vous qui ne sont pas sûrs d'eux et qui sont prêts à faire des enfants parce que c'est comme ça et parce qu'il faut et parce que ça va bien se passer, bah pas forcément. Il y a encore temps de ne pas faire d'enfants et c'est tout à fait ok de ne pas faire d'enfants. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, ça a été vraiment le plus gros sacrifice d'avoir à passer du temps ailleurs que sur ma vie professionnelle, qui était mon centre d'intérêt numéro un.
Et quel est le truc dont tu es le plus fier, du coup, à l'opposé? D'avoir réussi à gérer ça?
Non, ouais, je pense que ça, effectivement, c'est une grosse fierté. Non, je crois que le truc dont je suis plus contente, en tout cas, que je conseille aussi à tout le monde, c'est de se lancer, moi, personnellement, monter Game Bakers, et être mon propre boss avec, il faut dire, un partenaire idéal comme Aymeric Toa, avec qui c'est extrêmement agréable de bosser. Mais en tout cas, ça m'a changé la vie, ça m'a réduit mon stress. Moi, j'étais quand même à des niveaux de décision assez élevés à Ubisoft. Bon, j'étais juste productrice ou senior productrice, mais quand même. Et pourtant, je me levais le matin et je savais pas forcément à quelle sauce on allait manger. Donc t'imagines, quand t'es en bas d'une grosse organisation et que tu sais pas si ton boulot va être conduit ou si ce que t'as fait va être mis à la poubelle ou gardé, tu vis dans un état de stress constant en te disant mais là je sais pas ce que je vaux, si ce que ça vaut ce que je fais, et moi qu'est-ce que je vaux dans tout ça. Alors qu'en montant ma boîte, et ben plus personne n'était là pour me dire ce qu'il fallait faire, c'était moi qui le décidais tous les jours. Alors au moins quand je faisais des bêtises, ben c'était mes bêtises. Et ça m'a réduit mon stress et ça m'a vraiment augmenté mon niveau de bonheur d'une force incroyable. Donc à tous ceux qui ne supportent pas la hiérarchie et les choses qui vous paraissent mal expliquées, mal pensées, ou en tout cas que vous auriez aimé qu'on vous l'explique mieux mais que personne n'a pris le temps, je vous encourage à faire les choses vous-même.
Je suis tout ouïe. Avant, alors c'est antépéloumtienne, l'avant-dernière question. Moi qui suis très... Alors justement, il y a plusieurs facettes à la question. Moi qui suis très intéressé par le sujet aujourd'hui des formations spécialisées dans le jeu vidéo, sur lequel il y a plein de bonnes choses, mais il y a énormément de choses à redire. Et toi qui n'es pas passé par tout ça et qui vois aujourd'hui des nouvelles générations de designers et d'artistes et de programmeurs sortir, quel est ton point de vue, toi, sur ces formations-là? Je sais pas si tu y es confronté directement ou pas du tout.
Moi, mon point de vue, c'est que ces formations sont, pour certaines, extraordinaires, mais elles sont aussi un moule qui fait qu'à la fin, on obtient que des jeunes de catégorie socioprofessionnelle plus 85% d'hommes blancs qui sont passés par les mêmes formations avec les mêmes références et les mêmes profs et les mêmes jeux vidéo mis en exemple et le même parcours et ils ont tous le même profil. Et donc ça crée un manque de diversité dans l'industrie. Et moi je pense qu'il faut qu'on se batte en tant que médias pour laisser la porte ouverte aux créateurs de toutes origines et de tous horizons. Parce que c'est comme ça qu'on aura les choses les plus intéressantes qui vont émerger. Et en plus, il y a trop de formations maintenant, il faut bien le dire.
Clairement, là-dessus, on est d'accord. Ok, bah écoute, c'est une belle réponse, tu vois. C'est pas forcément quelque chose à laquelle on penserait en premier lieu quand on pense à ça. Je suis étonné, je ne m'attendais pas à cette réponse. On dit souvent qu'il faut échouer pour réussir. Est-ce que toi, t'as un échec ou une erreur qui t'a fait rebondir, est-ce que tu voudrais partager?
Ouais, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs sur Even, notre dernier jeu, mais je pourrais pas en parler avant que ça sorte.
Ok.
Donc voilà, vous en saurez plus quand ça sortira l'année prochaine, on vous racontera comment ça s'est passé.
On fera une annexe à l'épisode. Et dernière question, Est-ce que tu continues toujours à jouer au JDR? Est-ce que t'en écris toujours?
Non, je joue plus. Ah bah si. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Mais bien sûr. Je joue maintenant avec ma fille. Ma fille et mon mari, parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis. Non, je rigole. Non, mais en fait, on joue entre nous. On a notre unité familiale maintenant qui fait des parties de jeux de rôle. Donc là, mon mari vient de lancer une campagne de Donjons et Dragons remaniée. Mais avant, j'avais fait un monde imaginaire pour ma fille parce que elle était un peu petite. Et puis ensuite, on va faire Harry Potter. On va faire aussi un petit scénario dans le monde d'Harry Potter qui va être assez sympa. Donc oui, j'y joue toujours, même si c'est plus comme avant avec les copains toute la nuit dans la cave.
Super. Eh ben écoute, je te remercie énormément d'avoir bien voulu participer à l'émission. Si t'as un dernier mot, est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité? Peut-être Twitter. La parole est à toi.
Ouais, bah suivez The Game Bakers sur Twitter. C'est plus intéressant que mon compte. Non, mon compte, il y a essentiellement des propos féministes et un petit peu de Game Bakers dedans. Donc si ça vous parle, vous pouvez rejoindre avec parfois un petit peu d'environnement aussi. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, les nouvelles sur nos prochains projets, c'est plutôt Game Bakers.
D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que j'ai oublié d'en parler quand on parlait de Game Bakers parce que j'étais trop pris par la discussion. Mais j'invite tout le monde parce que vraiment, je suis fan de la front page du site de Game Bakers avec la petite marmite où on peut mettre des ingrédients de Rational Game Design et au final vous proposer un jeu avec les ingrédients qu'on met dans le chaudron. C'est vraiment plutôt sympa.
C'est un clin d'œil des boulangers du jeu.
Eh bien écoute, je te remercie encore une fois énormément d'avoir bien voulu participer à l'émission. C'était très enrichissant, super discussion. Voilà, merci beaucoup.
Merci à toi et c'est un beau projet comme ça de donner la parole aux créateurs de jeux vidéo. Je suis sûr que ça inspirera des gens à se lancer. Donc merci à toi.
Eh bien merci, je l'espère. Et voilà que se termine ce 5e épisode de Meet the Dev. Évidemment, je remercie encore une fois Audrey Leprince de bien avoir voulu participer à ce podcast. Je vous assure qu'il y avait encore plein d'autres anecdotes à raconter, mais c'était difficile à tout faire rentrer dans un format d'une heure. Elle aurait pu notamment raconter comment elle a rencontré d'autres célébrités comme Jacques Chirac. On va se dire que ce sera peut-être pour une autre fois. Évidemment, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin cet épisode de Meet the Dev. Je m'excuse des quelques couacs techniques et sonores que vous avez pu subir pendant l'écoute de ce podcast, mais vous savez sans doute que qualité d'enregistrement égale souvent argent. On se retrouvera prochain épisode de Meet the Dev. Quant à ça,